Aujourd'hui, nous parlerons d'un livre de Jean-Claude Dantatli, préfacé par Jean-Claude Darigaud, publié aux éditions de Guibert. Le titre du livre, c'est « Itinéraire d'un chrétien d'Orient ». Monsieur Jean-Claude Dantatli, nous sommes réunis pour parler d'un livre que vous avez publié aux éditions François-Xavier de Guibert et qui s'intitule « Itinéraire d'un chrétien d'Orient ». Alors, peut-être que la meilleure présentation que l'on peut faire de votre livre, c'est un fragment qui est en conclusion et qui décrit le mieux l'itinéraire que vous avez cherché à faire en tant que chrétien d'Orient.
Et c'est extrait issu d'un chapitre intitulé « Et maintenant, j'avance comme un âne ». Né à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, je n'ai été ni un combattant, ni un résistant héroïque pour défendre la liberté. Mais j'ai mal vécu ces images insoutenables de conflits au Liban, en Palestine, en Iran, en Irak, en Yougoslavie, au Rwanda ou en Afghanistan. J'ai rêvé d'un monde meilleur jusqu'à avoir cru qu'à moi seul, par ma foi, mon amour de la paix, mon désir brûlant de fraternité, je pouvais le changer. Mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait d'abord commencer par se changer soi-même.
Alors, monsieur Dantatli, bonjour. Donc, vous êtes là pour nous parler un peu de ce livre.
Écoutez, d'abord, je vous remercie. Je remercie Radio Maria de cette invitation. Comme l'a dit Marie-Agnès, la fin explique l'itinéraire. Effectivement, ce qui a été dit est encore d'actualité aujourd'hui. Et cela me remémorise ce que François-Xavier de Guibert, mon éditeur, il y a 10 ans, quand je lui confiais mon ouvrage, il me dit « Votre livre a une valeur prophétique, mais il faut le réduire de moitié », parce qu'il était très long. Et aujourd'hui, ce qui m'a motivé, si vous voulez, c'est 3 raisons fondamentales. La première, une question de mon fils, qui me pose une question à propos de ma mère, dont j'avais perdu la trace depuis plus de 25 ans. Et à un enfant, on ne peut pas mentir. Donc c'était une recherche de vérité. Mais plus fort que cette vérité, il y avait 2 raisons. C'était cette frustration qu'un Syrien, qu'un immigré, un Français d'origine syrienne, qui vit en France depuis 40 ans et qui vit les événements comme tout à chacun, et puis tout ce qu'il a été dit, médiatisé, à propos de ce drame qui est toujours malheureusement d'actualité, et comme tout être soucieux de la paix, qui aspire à la justice, je ne pouvais pas rester silencieux. Donc j'ai mené dans l'anonymat depuis pratiquement 30 ans mon combat dans la paix, en essayant de faire entendre que je pourrais qualifier une voix dans le désert, parce que j'ai fini, et c'est un petit peu la conclusion qui a été un peu esquissée et ébauchée, à savoir, on a beau s'adresser aux plus grands, puisqu'ils détiennent le pouvoir, même si on a quelquefois une certaine écoute, mais je crois qu'ils sont vraiment sourds. Je ne suis pas venu ici juger et polémiquer, c'est pas mon rôle, mais quelque part, quand on voit aujourd'hui où on est, la situation au Proche-Orient, je dirais, il n'y a pas eu de tentative de paix depuis un demi-siècle. La logique de la Troisième Guerre mondiale a bien eu lieu, à mes yeux, au lendemain du 15 mai 1948. Et puis, 3e raison, c'est je ne pouvais pas garder pour moi des événements dont j'avais été témoin, malgré moi, moi qui suis le croyant, qui ne cours pas après les miracles, mais quand ils sont là, on ne peut pas garder ça pour soi dans un salon bien au chaud. Étant père de famille, biologiste et croyant, ayant été, malgré moi, plus d'une fois, je dirais même une bonne douzaine de fois, témoin de choses que je ne peux pas qualifier autrement que d'extraordinaire ou de surnaturel, et je pèse mes paroles, donc il a fallu consigner par écrit, je dirais presque jour après jour, après avoir fait la rétrospective, la mémoire de l'histoire de mon pays, parce que je ne suis pas historien, à partir de 82, donc pratiquement il y a 22 ans, tout ce qui a été écrit pratiquement en direct, avec le maximum de rigueur, et je dirais, tout n'a pas été dit, mais l'essentiel a été consigné dans ce livre.
Alors, il y a dans votre livre, effectivement, 3 aspects Et vous me permettrez d'élargir un peu le premier aspect. Le premier aspect que vous résumez par ma mère, je dirais ma mère, mes racines orientales, ma grand-mère, ma famille, toute la vie dans ce pays, dans ces pays, Jordanie, Syrie,
Liban,
et le grand absent, Israël, mais qui est sans cesse présent. Donc cette première partie de votre livre, c'est toute la partie qui concerne effectivement la vie de ce pays, la culture de ce pays. Personnellement, c'est un aspect qui m'a énormément passionné. Ensuite, le deuxième aspect, le drame du combat pour la paix que vous avez mené. Et enfin, le troisième aspect, ce témoignage sur ces événements qu'il faut citer, qui sont les événements de Soufanié, de Notre-Dame de Soufanié. Alors, on va essayer d'aborder un peu les trois thèmes successivement. Ça n'est pas très facile. Je propose qu'on inverse un peu votre plan, qu'on parle d'abord de votre mère, de votre origine, dans un second temps que l'on parle de Soufanié, et dans un troisième temps du combat pour la paix.
Tout à fait. Vous me demandez en quelques minutes de vous résumer ce qui m'a pris environ 20 ans. Mais bon, en ce qui concerne ma mère, effectivement, d'abord je me permets juste une petite rectification. Ma grand-mère, oui, d'origine orientale, même d'origine syrienne et antiochienne. Ma maman, elle est d'origine grecque. Et son histoire mériterait un deuxième livre.
Oui, absolument.
Parce qu'une bonne partie de sa famille a été massacrée sous l'Empire ottoman, tout simplement parce qu'ils étaient des chrétiens. Comme quoi, la guerre des religions n'a pas cessé, bien que souvent, le fondement des guerres n'est pas la religion. On se sert de la religion à tort. Que ce soit autrefois, au temps des croisades, aujourd'hui au nom du martyr, mais il y a un amalgame que je ne peux pas élucider là, puisque ce n'est pas là l'objet de ma visite. Ma mère, j'ai vécu avec elle pratiquement jusqu'à l'âge de 8-10 ans, puis j'en ai été séparé. Et puis 25 ans après, je la retrouve d'une façon providentielle par un ami. C'est indiqué dans le livre. C'est vrai qu'il n'est pas facile de parler de sa mère, bien que je l'ai retrouvée. Mais je ne peux pas tout vous dire, mais je vous dirai deux, trois choses. Dans cette quête de vérité, pour répondre à mon fils qui a...
Votre mère, d'ailleurs, étendue à ses origines orientales, grecques, etc. Donc,
oui,
Asie mineure
oui,
des premiers temps.
Elle est partie d'Adana en Turquie, où ses parents étaient venus, donc avaient émigré. Et vivait à cette époque, au début du siècle, en bonne harmonie avec les gens de la région. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, c'était encore l'Empire ottoman, que la Syrie, puisque vous avez parlé de la Syrie, le Liban, la Jordanie, Israël, je n'ai pas peur de la citer, mais c'était la Palestine, c'était sous mandat français conjointement et sous mandat anglais-français pour le Liban et la Syrie et britannique pour la Jordanie et pour
l'Irak.
La Palestine.
Et l'Irak,
effectivement. D'ailleurs, vous avez remarqué sur la couverture, j'ai mis les 5 drapeaux, y compris celui du drapeau israélien, parce qu'il faut reconnaître l'autre. Et ça m'a déjà valu quelques critiques, mais ça ne fait rien. On ne peut pas faire la paix avec l'autre si on ne le reconnaît pas aussi. Ceci étant...
D'ailleurs, je voulais vous poser une question sur ce dessin qui est marqué dessin de l'auteur,
oui,
qui évoque la fuite en Égypte.
Oui.
On a l'impression, dessin de l'auteur, c'est vous qui avez
conçu cela. J'ai composé, je dessine très mal, mais j'ai demandé cette composition. Voilà.
On dirait ici Notre-Dame de Santa Cruz, tenant un rameau d'olivier à la main,
oui,
tirant un petit âne qui porte les 5 drapeaux que vous venez de citer, et un enfant. Et on se demande si cet enfant est Jésus ou vous-même.
Non, je dirais moi-même non. Je ne me permettrai pas parce que j'aime pas trop parler de moi, bien que le livre évoque mon itinéraire. Non, c'est volontairement, c'est les deux. Vous avez, c'est une très bonne remarque, Monsieur Schneider. C'est bien l'enfant Jésus et en même temps, c'est l'enfant de tout le monde. Et volontairement, j'ai choisi un âne parce que le Christ, il n'a pas choisi un pur sang arabe.
Donc, ceci évoque votre livre.
Et en même temps, l'absence d'homme aussi.
D'une certaine façon, ce livre évoque la manière dont une femme qui est tour à tour votre mère, votre grand-mère, la Vierge Marie, vous écarte un peu des zones de guerre, mais vous laisse conscient de ces zones de guerre qui sont manifestées par les drapeaux. Et je trouve ça résume très très bien votre approche du livre.
Tout à fait. Je dirais peut-être l'une des rares choses qui n'est pas de moi dans ce livre, outre la sincérité des mots, et de tout le travail que j'ai mis avec beaucoup de cœur, de passion, d'honnêteté et de rigueur. Le titre au départ c'était Damas et ses chemins, ou bien j'avais un autre, Le parfum de Marie. Et puis avec le conseil de mon éditeur qui m'a dit que ce qui représentait davantage le livre, c'était cet itinéraire d'un chrétien d'Orient. Et je me suis bien gardé de mettre la préface de Jean-Claude Darigaud qui parlait de l'itinéraire d'un honnête homme, Jean-Claude Darigaud, qui est grand reporter d'Antenne 2,
et
qui est en même temps prêtre et journaliste. Je trouve que c'était un titre très touchant pour moi, qui me remplissait de fierté, mais trop élogieux, et je ne pouvais pas, moi-même, si vous voulez me nommer, honnête, c'est difficile, on ne peut pas. Donc voilà en ce qui concerne le titre. Par rapport à l'image, comme vous l'avez très bien représentée, effectivement, ça résume tout, ça résume un petit peu l'image que je me fais de la vision actuelle de ce monde, mais en même temps, je peux l'affirmer, c'est une vision qui reste pour moi, malgré toutes les horreurs que nous vivons au quotidien, je reste très optimiste, mais avec un regard vertical plutôt qu'horizontal, avec toute la confiance que je peux avoir dans certains humains, hommes et femmes, ça et là, qui travaillent comme vous et moi, si je peux le dire, on n'est pas tous des sœurs Teresa, mais Dieu merci, il y en a partout dans le monde des gens qui croient dans la paix, mais c'est vrai que la paix ne s'improvise pas avec des mots. Il faut des actes, et je crois le monde politique, je me permets de dire gravement, je ne peux pas me substituer à Dieu, mais quelque part, à leur place, j'aurai ce qu'on appelle chez nous en Orient, non pas la peur de Dieu, le mot peur veut dire la crainte de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et il faut bien que ces gens-là responsables, de gauche ou de droite, de l'Occident ou de l'Orient, un jour se posent la question, le soir quand ils dorment, est-ce qu'au nom de la démocratie, au nom de la liberté, on peut faire ce qu'on est en train de faire?
Alors, ces origines, évidemment, c'est votre vie, d'abord à Damas,
à Alep, c'est ma ville natale, effectivement.
Avec cette ambiance d'amitié et de confiance entre les différentes religions reliées les unes aux autres. Vous aviez des amis musulmans, vous aviez des amis juifs, chacun avait son faubourg dans Alep. Et puis, ces enseignants que vous avez eus, qui étaient des frères des écoles chrétiennes, qui étaient des missionnaires du Prado, des jésuites aussi, qui se sont dévoués dans tous ces pays d'Orient pour créer des écoles, pour créer des dispensaires, pour créer une véritable... ils étaient vraiment dans la population, respectés, aimés, etc. Et ce qui frappe quand on voit de l'extérieur, c'est cette ambiance de confiance et d'amitié. Vous citez quelque part dans votre livre quelqu'un qui est venu en Syrie et qui n'y a pas rencontré de terroristes.
Oui, dans le voyage.
Et en fait, c'est vrai que vu d'ici, on a l'impression, alors que l'ambiance que vous décrivez, c'est une ambiance de paix, c'est une ambiance d'amitié, c'est une ambiance de vie paisible, sereine, amicale, d'ouverture, d'hospitalité. C'est très important cette image que vous donnez de ces pays orientaux pour nous, occidentaux.
Tout à fait. Ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire, j'ai vécu ce que on peut vraiment à la belle époque. Et pourtant, paradoxalement, je suis né au moment de la Seconde Guerre mondiale. c'est-à-dire où le monde, l'Europe en particulier, était en guerre, et nous, et moi, malgré le déchirement que j'ai connu, Dieu merci, dans cette ambiance, même d'une grande ville, Alep à l'époque comptait 400 000 habitants. Imaginez aujourd'hui une métropole de 4 millions d'habitants. Donc les choses ont évolué. Rapidement, effectivement, je peux dire, j'ai des souvenirs de mon enfance à travers les trois communautés. Certes, les juifs étaient minoritaires, bien sûr. Les musulmans sont toujours majoritaires, mais il se trouve qu'Alep était une exception. Elle comptait à l'époque pratiquement 40% de chrétiens. Donc c'était la ville qui comptait le plus de chrétiens dans cette région de la Syrie, qui, il ne faut pas oublier, c'est une terre sainte, au même titre que la Palestine ou que le Liban, ou même la France, que je considère comme une terre sainte. Ceci dit, l'amitié, oui, ça compte effectivement, l'hospitalité, tous les gens qui ont visité ce pays ont toujours été touchés. Et c'est vrai, j'ai souffert un petit peu d'une certaine... On a terni, à tort ou à raison, parce qu'avec un peu de vérité, on masque la vraie vérité. Cette région, pour tous les gens qui l'ont visitée, c'est une terre d'accueil, d'amitié, d'hospitalité. Ceci dit, les choses, malheureusement, sont toujours... L'accueil, l'hospitalité existe, mais le monde a changé, et le Proche-Orient a changé aussi, malheureusement. Il s'est appauvri. La situation économique se dégrade. Beaucoup de jeunes cherchent du travail, donc c'est devenu... Ce n'est plus le havre de paix que j'ai connu. Les réalités sont là. Et quand je pense, à cause des... Je dirais des hégémonies stratégiques et des enjeux dont on se sert beaucoup dans la démocratie. Regardez, l'Irak est un pays très prospère. Moi, quand j'ai quitté la Syrie, le Liban, l'Irak avait un niveau de vie extraordinaire. L'Arabie Saoudite, la Jordanie, c'était assez correct. La Syrie et le Liban avaient un niveau de vie équivalent à celui de beaucoup de pays européens. Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont tous en difficulté. Malgré cela, il y a beaucoup de jeunes qui continuent aussi bien en Syrie-Liban, qui continuent par leur foi à tenir. Mais beaucoup, depuis un quart de siècle, beaucoup émigrent. Et donc cela devient un vrai problème. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on ait une vision utopique. L'accueil existe, l'amitié est toujours profonde, l'hospitalité, la foi aussi, elle persiste. Et je dirais ce que peut-être que j'ai oublié de signaler au début, à travers les messages que nous allons voir hein, dans ces manifestations, parce que c'est le plus important, c'est la famille est encore solide. Ce qu'on ne rencontre plus dans notre zone occidentale, en Europe en particulier. Et tout à l'heure, je me suis peut-être permis un petit peu de dévier du sujet en vous donnant un peu mon point de vue en tant que citoyen, si vous voulez. J'ai outrepassé, si vous voulez, en vous disant un petit peu mon indignation par rapport au drame que connaît, mais c'est parce que j'ai la conviction intime que si le Proche-Orient va bien, le monde ira bien. Et si la France, qui a déjà marqué sa différence, et vous avez vu un peu les répercussions sur le plan international, mais il se trouve aujourd'hui, peu de gens crient combien la France avait été sage de rester à l'écart plutôt que de l'accuser de n'avoir pas soutenu les alliés. La France n'a jamais été traître dans ses relations avec les États-Unis ou avec d'autres pays. Mais c'est vrai parce que aussi elle a l'expérience de ces pays, puisqu'elle en était la protectrice et la mandataire. Et c'est vrai que tous les Orientaux ont une idée très respectueuse de la France et de ce que représentait le général de Gaulle. Et puis, bon, maintenant, comme vous le souhaitez, on pourra parler des événements de Soufanier et alors, de ce dont j'ai été témoin.
Voilà. Voilà, on peut parler de ces événements, puisque c'est quand même quelque chose d'assez... extraordinaire au moment où le Moyen-Orient est en situation difficile. Tout cela a été provoqué évidemment par la création de l'État d'Israël, appuyé par la France autant que par les États-Unis et par l'Angleterre. Et vous parlez avec beaucoup de pudeur d'ailleurs dans votre livre de toute cette histoire, des efforts des pays arabes pour la paix, que ce soit Sadat ou que ce soit
le roi de Jordanie,
le fameux petit roi Hussein, qui était très aimé, je me souviens, dans Jérusalem-Est, vers les années 70, lorsque j'y suis allé. Et il y a eu quand même de véritables efforts en faveur de la paix. Il n'y a pas eu que du terrorisme, comme on tenterait à nous le faire croire. Et d'ailleurs, beaucoup du terrorisme, à un moment, était le fait de l'Irgun, au début. Et vous citez un peu ces événements, les efforts pour la paix et la manière dont cette situation vous déchire. On en reparlera tout à l'heure. Et au moment de cette difficulté, se produit un fait assez extraordinaire qui est connu mondialement maintenant, qui est cette apparition de la Vierge à Soufanié, ses effusions d'huile, la stigmatisation d'une jeune femme qui s'appelle Myrna, qui est mariée, et à laquelle vous avez été étroitement mêlée, et d'ailleurs des apparitions et des effusions qui sont reconnues par l'évêque local, donc qui sont reconnues par l'Église maintenant. Ça n'est pas quelque chose de...
Non, c'est pas quelque chose de tabou, tout à fait.
C'est quelque chose de tout à fait reconnu, et c'est donc important d'en parler, ce à quoi vous avez assisté, les messages de conversion qui sont donnés, les messages de paix qui sont donnés à Soufanié, justement parce que le Proche-Orient est un point crucial de l'avenir de la paix dans le monde.
Oui, tout à fait. Je dirais personnellement, ce n'est pas par hasard, si vous me permettez l'expression, que la Vierge Marie a choisi de mettre son quartier général dans un quartier pauvre qui s'appelle Soufanié, pas loin de la porte Saint-Thomas, vous voyez, à deux pas. Je me permets de vous signaler quelque chose avant, parce que c'est une affaire qui est très importante. Autant il peut y avoir dans les événements d'apparition ou diverses manifestations qui suscitent toujours les mêmes réactions. Vous savez, quand ça vient de Dieu, il y a toujours les polémiques, ce qui est logique et humain. Il y a toujours les suspicions, il y a toujours les enquêtes des services secrets ou non secrets, les interrogations des scientifiques, des médecins du monde entier, etc. Et puis, parfois, pour les gens sceptiques, si Dieu existait, pourquoi il laisse faire les guerres? Pourquoi ces apparitions à côté des choses aussi horribles? Je ne peux pas répondre à la place de Dieu, mais je crois avoir discerné son empreinte, sa signature, je dirais, son code spécial et spécifique. Et quand on a un cœur d'enfant, on peut tout de suite faire confiance et comprendre, sans preuve. Alors j'en viens au fait, effectivement, cette histoire, cette tache d'huile dans le monde entier. Au début, c'est une icône qui a coulé, et les suspicions ont été Damas. Ou bien est-ce que ce n'est pas une histoire d'argent? La famille étant de conditions modestes, n'était pas un moyen de gagne-pain. Or même l'Église, vous avez cité l'Église, effectivement, Vatican et l'Église, je ne dis pas qu'ils sont obligés, puisque ce n'est pas un dogme, mais il a mis 5 ans, c'est vous dire si les enquêtes ont été menées d'une façon sérieuse. Et au bout de 5 ans, l'Église a dit, il n'y a pas de supercherie, effectivement. Libre aux gens, croyants ou incroyants, de trouver peut-être une lumière dans tout ce qui a été dit. Pour ma part, ça m'a pris, si je devais vous trouver un seul mot, alors que j'ai été témoin d'un certain nombre de miracles, d'un certain nombre d'écoulements, j'ai été moi-même témoin à 2 reprises en direct d'une stigmatisation de Myrna en 87 et 90. Je cite les détails dans le livre pour ceux qui sont intéressés. Mais ce que je voulais vous dire, bien plus fort que tout cela, ce sont les messages que la Vierge a donnés à Myrna qui m'ont le plus impressionné. Et je me permettrai de vous citer le premier, qui a été donné lors de la deuxième apparition. Car la première fois, quand la Vierge est apparue à Myrna, elle était effrayée. Et le père du Prado, Elias Zalaoui, qui suit les événements depuis le début, a dit à Myrna, sans doute la Vierge t'a vu effrayée, et si c'est bien elle, t'inquiète pas, le moment venu, elle viendra te revoir. Et effectivement, 3 jours plus tard, le 18 décembre 1982, la Vierge lui apparaît et lui donne le premier message. Elle était en extase. Il faut être scientifique pour savoir ce que c'est en extase. Ce n'est pas un état d'hystérie. Et un de mes confrères, le docteur Philippe Laurent, qui est un neurologue de la Salpêtrière, qui s'est rendu déjà à plusieurs reprises, a analysé Myrna et a conclu qu'elle est parfaitement normale et qu'elle ne présente aucun signe d'anomalie qui puisse justifier quoi que ce soit. Et le premier message qui a été délivré en arabe, je vous le traduis globalement, la Vierge s'est adressée ainsi à Myrna, mais bien sûr au monde entier, je suppose. Mes enfants, Souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous. Vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien. Votre connaissance est une connaissance imparfaite, mais viendra le jour où vous connaîtrez toutes choses comme Dieu me connaît. Faites le bien à ceux qui font le mal et ne faites du tort à personne. Aimez-vous les uns les autres. Repentez-vous et croyez et souvenez-vous de moi dans votre joie. Je vous ai donné de l'huile plus que vous n'en avez demandé. Et je vais vous donner quelque chose de bien plus fort que l'huile. Annoncez mon fils l'Emmanuel, qu'il annonce est sauvé, qu'il n'annonce pas sa foi est vaine. Je ne demande pas de l'argent à donner aux églises, ni de l'argent à distribuer aux pauvres. Atlubul mahabba, ce qui veut dire je demande l'amour. Car les gens qui vont à l'église n'y vont pas toujours pour prier. C'est pour ça, elle a dit, je ne demande pas à ce que l'on construise une église, mais un lieu de pèlerinage. Je visiterai davantage les foyers, car les gens qui vont à l'église n'y vont pas toujours pour prier. Ne privez personne de ce qui demande secours. Priez, priez, priez. Tel a été le premier message. Il y en a eu 5 autres. Dans les 3 ans qui ont suivi, il y a eu 5 apparitions. Et puis, depuis 22 ans, l'huile ne cesse de couler de cette image et parfois du corps de Myrna.
Qui est l'image de Marie, porte du ciel.
Non. Cette image, l'historique, a été rapportée par le couple. Ils étaient jeunes mariés, Myrna était jeune mariée. Et comme leurs moyens ne leur permettaient pas d'aller très loin, ils ont été en Bulgarie. Et c'est dans l'église Sainte-Sophie qu'ils ont ramené une dizaine de ces images, dont vous avez une reproduction, et ils l'ont mis dans leur chambre à coucher. Et un beau soir, le soir du 26-27 novembre 1982, elle s'est mise à couler, d'où les centaines de pages que j'ai consignées pour dire ce que j'ai vu et entendu.
Aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien avec Jean-Claude Antakli, médecin biologiste né en Syrie et qui a vécu au Liban et en Jordanie avant de s'établir en France. Ce chrétien d'Orient a publié un livre aux éditions Xavier de Guibert intitulé « Itinéraire d'un chrétien d'Orient ». Nous échangeons avec lui sur les événements de Soufanie à Damas, en Syrie, apparition de la Vierge liée à des effusions d'huile et à des stigmatisations. Écoutons Jean-Claude Antakli commenter le premier message donné par la Vierge.
Mes enfants, souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous. Vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien. Votre connaissance est une connaissance imparfaite, mais viendra le jour où vous connaîtrez toutes choses comme Dieu me connaît. Faites le bien à ceux qui font le mal et ne faites du tort à personne. Aimez-vous les uns les autres. Repentez-vous et croyez et souvenez-vous de moi dans votre joie. Je vous ai donné de l'huile plus que vous n'en avez demandé et je vais vous donner quelque chose de bien plus fort que l'huile. Annoncez mon fils l'Emmanuel, qu'il annonce est sauvé, qu'il n'annonce pas sa foi est vaine. Je ne demande pas de l'argent à donner aux églises, ni de l'argent à distribuer aux pauvres. Atlubul mahabba, ce qui veut dire je demande l'amour. Car les gens qui vont à l'église n'y vont pas toujours pour prier.
Qui est l'image de Marie, porte du ciel.
Non. Cette image, l'historique, a été rapportée par le couple. Ils étaient jeunes mariés, Myrna était jeune mariée. Et comme leurs moyens ne leur permettaient pas d'aller très loin, ils ont été en Bulgarie. Et c'est dans l'église Sainte-Sophie qu'ils ont ramené une dizaine de ces images, dont vous avez une reproduction, et ils l'ont mis dans leur chambre à coucher. Et un beau soir, le soir du 26-27 novembre 1982, elle s'est mise à couler, d'où les centaines de pages que j'ai consignées pour dire ce que j'ai vu et entendu. Ceci dit, donc, cette image a été ramenée. Au départ, certains pensaient qu'il y avait peut-être quelque chose. Les services secrets sont venus pour voir s'il n'y avait pas des tuyauteries qui alimentent cette image, vous voyez, ce qui est normal. Or, aujourd'hui, dans plus de 20 pays au monde, on a environ, parce que je ne suis pas un statisticien, répertorié 1200 écoulements. Donc, qui prouve que ça dépasse le cadre de Damas, ça dépasse le cadre de Myrna, qui n'est qu'une maman, une femme du peuple, comme elle dit, quand on lui dit, mais Myrna, tu as beaucoup de chance, elle dit, je ne sais pas pourquoi la Vierge m'a choisi, moi qui ne connaissais que le Je vous salue et le Notre Père. Signe de sa modestie. Et peut-être j'ajouterai une chose, pour ceux qui sont intéressés par les événements, ou par les guérisons, ou par les messages en détail, ils peuvent donc trouver ce livre dans toutes les librairies, et en particulier à la procure. Mais j'ajouterai pour moi, les choses les plus importantes, c'était de voir notamment les premiers jours, pendant 40 jours et 40 nuits, côte à côte, musulmans et chrétiens devant l'icône, en train de prier sans se poser des questions, parce qu'ils ont senti sans preuve la main de Dieu. Et il se trouve, elle ne les a pas démentis, puisque la Vierge continue à faire son travail avec qui elle veut et comme elle veut.
Oui, le très important de ce message, c'est effectivement le Dieu d'amour et le Dieu avec nous. Vous citez dans votre livre que Myrna ne savait même pas le sens du mot Emmanuel, Dieu avec nous.
Absolument.
Elle ne savait que le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et le message de Soufanié, c'est un message de Marie qui finalement, pour la paix du monde, mais pour l'avenir de l'humanité, nous demande de nous souvenir que Dieu est amour et que notre rôle, c'est de vivre dans cet amour, de propager cet amour et de prier. Et de prier toute religion confondue.
Tout à fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amalgames. Ce n'est pas la Vierge quand elle apparaît, effectivement, parce que la question lui a été posée. Mais la Vierge avait répondu qu'elle était la mère de tous les enfants. Cela ne veut pas dire que nous devons renoncer les uns aux autres, qu'on soit, pour ma part, ça c'est moi qui le dis, qu'on soit chrétien, il ne faut pas qu'on ait d'avoir des complexes. J'entends souvent des gens dire, je suis catholique ou chrétien, mais pas pratiquant, avec presque un air d'excuse. Je dirais, je ne suis pas là pour juger, mais à la limite, si on est chrétien, il vaut mieux être pratiquant. Si on est fonctionnaire et salarié, il vaut mieux bien faire son travail. Et si on est ouvrier, il faut être un bon artisan. Ou bien, bon, ben, c'est très bien. Par rapport également, je pense quand Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir, je crois qu'il a voulu nous dire, si on est juif, il faut rester juif. Être enraciné dans son judaïsme et puis appliquer ce que le cœur dit. On est musulman, moi j'ai jamais eu de problème. Vous savez, vous m'avez parlé de mon enfance, effectivement, j'ai jamais eu à souffrir pendant les 25 ans que j'ai connus entre la Syrie et le Liban, ne serait-ce que d'un geste ou d'une insulte de la part d'un musulman. Et je sais très bien qu'il peut y avoir de bons et de mauvais musulmans, mais pour moi qui faisais partie de la minorité chrétienne en Syrie ou au Liban, sincèrement, pendant les 25 ans avant la guerre, je n'ai jamais eu à souffrir, et même tardivement. Je crois que c'est un faux problème, et il y a des gens, probablement, des gens qui n'ont rien à voir avec la religion, qui s'acharnent à semer le doute, parce que c'est ça aussi l'esprit du mal, en faisant croire. Comme on veut faire croire au nom de la démocratie qu'on veut sauver toute une nation, il peut y avoir du vrai, il peut y avoir du bien, mais quand on dit qu'un miracle, on le reconnaît à ses fruits, et je dis, la gestion, qu'elle soit familiale, individuelle, civile ou politique, elle se reconnaît aux fruits. Si les intentions et les actes qui sont mis en place pour aboutir à créer de l'emploi, à créer de la prospérité, à créer de la paix, les mécanismes, vous savez, c'est comme en science, ça ne trompe pas, on a les résultats. Or, pour en revenir donc à Soufanié, il n'y a pas qu'un message comme ça de paix et de gentillesse, ça dépasse, on en reparlera. Il y a une autre voyante que j'ai côtoyée, qui a vécu dans ma ville natale, que j'ai rencontrée 15 fois maintenant, qui est recloîtrée au Liban dans un coin perdu. Le Christ a insisté quand il parlait, et elle le voit pratiquement tous les jours comme je vous vois. Il a insisté sur le symbole de l'hostie, comme quoi il est bien vivant dans l'Eucharistie. Comme il a dit que ses enfants ont abandonné le confessionnal, cet acte d'humilité qui fait sourire aujourd'hui. Et puis il a parlé de Jérusalem, du sort de Jérusalem. Il serait trop lent de vous détailler un petit peu toute la teneur de ces messages. Mais je crois que ce soit la Vierge, le Christ, ou les femmes ou les hommes qui choisissent, essayent avec des mots, et ce n'est pas toujours simple. Quand vous recevez des messages qui viennent d'ailleurs, donc du divin, vous ne pouvez que les traduire ou les transmettre avec le plus de fidélité possible. Mais j'ai remarqué, souvent, notamment dans les esprits des gens, excusez-moi de le dire, parfois un peu trop orgueilleux, où ils essayent de décortiquer ça comme si c'était une marchandise, comme si c'était quelque chose d'abrut, alors que c'est quelque chose de relationnel, de profond. Moi-même, le premier message, je vous dirai, j'en découvre tous les secrets aujourd'hui, le premier message. Et pour terminer, je vous dirai dans ce message, au début, il y a trois consonances prophétiques que les témoins, les prêtres ou les scientifiques ou les médecins, quand elle a dit, la Vierge a dit, et je terminerai par là, je visiterai davantage les foyers. Les gens n'ont rien compris. Quand elle a dit, annoncez mon fils l'Emmanuel, effectivement, Myrna ne savait pas ce que c'est. Moi-même qui étais chrétien, qui arrivais en France, je n'avais même pas le terme Emmanuel. C'est vous dire sa naïveté et sa sincérité. Et troisièmement, quand elle a dit, je ne demande pas à ce que l'on construise une église, mais un lieu de pèlerinage. Et je vais vous dire les trois réponses très rapidement. Le papa de Myrna, qui est un croyant, un brave homme, qui ne cessait de prier avant que la Vierge apparaisse, Vierge Marie, ne nous prive pas de l'huile. Ne nous prive pas de l'huile. La Vierge répond, je vais vous donner quelque chose de bien plus fort que l'huile. Beaucoup de gens autour ont dit, puisqu'ils ont réalisé que quelque chose d'extraordinaire se passe, il faut construire une église. Dans un élan passionné, d'enthousiasme, ce qui est normal. La hiérarchie même a pensé à construire une église sur le lieu. La Vierge, dans son premier âge, je ne demande pas à ce que l'on construise une église. Donc elle avait entendu, mais un lieu de pèlerinage. Et ensuite, quand elle a dit la troisième chose, je visiterai davantage les foyers. Le père Malouli qui est mort, qui est un prêtre lazariste, qu'on peut considérer comme Saint Vincent de Paul de son temps, disait, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire, la Vierge visiterait ? Aujourd'hui, on peut comprendre, 22 ans après, elle a visité 22 nations, et peut-être plus, avec 1000 écoulements. Et l'écoulement, ce n'est pas forcément chez vous ou chez moi. Moi, l'image, je l'ai. Elle n'a jamais coulé chez moi. Donc, par contre, si vous voulez, les preuves, pour ma part, elles sont flagrantes, elles sont aussi fortes qu'Ariane, Airbus, réunis avec toutes les technologies, mais Dieu a sa manière très délicate, très discrète, mais je dis très spectaculaire sur le plan scientifique, parce que jusqu'à ce jour, on a prouvé par la chromatographie en phase gazeuse que cette huile existe, elle a été analysée pas simplement à Damas, on peut considérer, sur le plan scientifique, n'est pas aussi à la hauteur des laboratoires européens. Elle a été analysée en France, à Paris, en Italie, en Allemagne, j'en passe. Mais je ne peux pas vous donner toutes les preuves. Dieu se suffit à lui-même. Cette huile a été analysée plusieurs fois. Et cette huile n'a pas coulé qu'une seule fois par hasard. Et les apparitions ont eu lieu. Et les stigmatisations ont eu 4 à 5 fois. Alors certains peuvent se poser la question, pourquoi ? Moi j'ai ma petite réponse. Aujourd'hui certains doutent même si le Christ a existé. S'il a même souffert, vous n'avez qu'à voir un peu la polémique, je ne veux pas rentrer dedans, dans La Passion du Christ de Mel Gibson, qui est un film peut-être un peu violent, mais remarquable, eh bien le Christ, à travers Myrna, a dit à 4 ou 5 reprises, voilà ce que j'ai vécu, elle n'en est pas morte, Myrna. Elle a beaucoup souffert, j'ai pris 100 poules, signe de la souffrance, 140 à la minute. Je ne crois pas que le Christ est un maso qui est venu un peu chatouiller Myrna, et c'est une maman qui aime vivre sa vie douce et tranquille. Et qui a souffert, mais c'était un signe. Elle l'a accepté. Et un des plus grands miracles, c'est que Myrna et Nicolas, on n'a pas beaucoup parlé de son mari, on en parlera une autre fois, peut-être à une autre émission, un monsieur vivant qui était croyant, mais pas pratiquant. Comme il dit, la religion pour moi, c'était un mirage. Et des fois, il avait envie de mettre tous les gens dehors, les curés. Ils acceptent depuis 22 ans que leur maison, une maison d'accueil, à n'importe quelle heure, n'importe quel couple normal n'aurait pas supporté ça. S'il ne sait pas qui c'est, au fond de lui-même, il sert Dieu, la paix et le monde et le sens de la famille.
Vous citez d'ailleurs dans votre livre un autre exemple d'apparition supposée qui s'avère être une supercherie, oui. Et où l'esprit n'est pas du tout celui-là.
Non, absolument, oui. Ça a été un concours. Je peux en parler, mais je pense que ça n'a pas. Vous savez, je n'ai pas du tout l'esprit d'enquêteur. Bien que j'aime bien la justice et la vérité, mais peut-être, je dirais, c'est moi qui le dis, le Seigneur m'a mis sur ce chemin de Paris où, excusez-moi, des échos comme quoi une manifestation analogue à Soufanié, j'ai trouvé curieux, mais il se trouve, j'ai pris non pas mon bâton de pèlerin, mais mon esprit de scientifique, et comme j'étais à Paris, je me suis dit, si c'est chez un compatriote, pourquoi pas ? Et je vous avoue, aujourd'hui, je me suis dit, mais vraiment, les voies du Seigneur sont impénétrables. Après tout, qu'on soit riche ou pauvre, on peut être riche et avoir un cœur pauvre, et être pauvre et avoir un cœur riche. Donc, je n'ai pas eu de préjugés. Donc, j'ai fait ma petite enquête, et au bout de 3 visites, j'ai compris qu'il y avait supercherie, et même mieux, je me suis dit, comme un train qui cache un autre, on a voulu jeter le discrédit sur des événements solides, formidables, qui défient d'ailleurs le temps, puisqu'ils continuent. Et par contre, je ne suis pas allé jusqu'à savoir, parce que ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle des médias ou des services secrets ou de la conscience de ces gens qui ont manipulé, à savoir qui était derrière cette manipulation qui porte atteinte à la vérité humaine d'une maman qui a eu des apparitions et à la vérité divine avec tout ce qui la défend, avec rigueur, humilité, comme je pense le faire, et sincérité.
Et c'est assez frappant aussi, cette prière commune des musulmans et des chrétiens, quelques années avant la prière d'Assise du pape, oui. 2 ou 3 ans avant.
Ça a commencé en 82.
Et ces appels, d'ailleurs, que fait le pape, le lien entre les croyants des différentes religions, il se fait toujours par le haut, il se fait par l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, ou c'est à l'amour que vous aurez pour Dieu qu'on reconnaîtra la valeur de votre foi. Que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien, que l'on soit juif, c'est l'amour qui est important. C'est l'amour qui unit, l'amour, la prière en commun. Et cet amour, évidemment, qui n'est jamais aussi profond et aussi grand que lorsque c'est un lien direct de personne à personne, ce qui est symbolisé par Emmanuel, Dieu est avec nous.
Tout à fait. Vous avez dit plusieurs fois le mot amour. C'est tout dans l'esprit de Radio Maria que je découvre et que j'entends avec beaucoup de bonheur. Je vous dirais, c'est vrai que l'amour et tout le monde... Vous savez, au moment où vous me disiez ça, je pensais aux mamans juives, aux enfants juifs, bien sûr, aux mamans palestiniennes. Je ne peux qu'être enraciné dans le Proche-Orient. Je pensais à leur douleur. Je suis convaincu que toutes ces mamans, comme les papas bien entendu, mais particulièrement les mamans, parce qu'elles savent ce que c'est d'enfanter dans la douleur, qu'elles soient en Israël ou en Palestine, qu'elles soient au Liban, en Syrie, ou en Irak ou en France, ou dans tous les pays du monde, ces mamans, d'ailleurs qu'on ne voit pas beaucoup sur les champs de guerre, Dieu merci, il nous reste encore ça, l'espoir. Vous croyez qu'elles ne veulent pas la paix? Et pourquoi les hommes politiques ne les entendent pas? Moi, ce que je voulais vous dire à travers Soufanié, je ne fais pas du zèle. Les musulmans, vous savez ce qui est formidable, vous les voyez là. Mais dans la rue, vous êtes français, vous êtes étranger, même vous êtes israélien, ils vont vous accueillir de la même manière, ils ne vont pas dire vous êtes ceci. Un peu comme les enfants, regardez les enfants quand ils sont petits. Ils sont petits, ils communiquent, il n'y a pas de problème. Ils peuvent avoir des souffrances, bien sûr, mais ils communiquent, ils sont transparents. Quand ils grandissent, le monde des adultes, je pense, corrompt leur transparence. Et ce qu'il faut dire aussi, amour, amour, bien sûr, mais le mal y est. Autant, moi qui suis croyant, je ne parlais pas ni du diable, ni des forces sataniques, du mal, parce que, bon, je dirais, ça me faisait sourire, mais j'ai réalisé, depuis que je suis témoin, depuis que j'essaye de mieux comprendre avec humilité, l'irrationnel de Dieu qui est son empreinte, je trouve les forces du mal existent, et c'est probablement là. Et la Vierge ne mâche pas ses mots, elle l'a dit aussi bien à la Salette, qu'en Yougoslavie, qu'en Syrie, qu'à Lourdes ou ailleurs, elle parle des forces du mal. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a encore plus besoin de nous. C'est un combat, il ne faut pas oublier. Peut-être aussi ce n'est pas un hasard si dans cette Terre Sainte, tous les conflits se retrouvent, se ramassent. C'est le même conflit qui naît dans une famille. Les problèmes ne viennent pas forcément d'abord des voisins ou des gens qui en vivent. Ils viennent d'abord de la famille, de la belle-sœur, de la belle-mère, du beau-frère. Et la guerre commence comme ça. Parce que peut-être l'homme n'a pas su préserver la belle mariée. C'est ce que j'avais dit à des jeunes Libanais à une époque, parce que je les aime, les Libanais, j'ai fait toutes mes études, pardon de vous rectifier, pas chez les frères d'école chrétienne, ça ne fait rien, c'est la même école, ce sont les frères maristes. Donc j'ai été imprégné de ces frères qui m'ont tellement appris leur culture que j'ai fini par aimer leur pays. C'est ça aussi. Attends un signe de nous, c'est l'humilité. Parce qu'il n'est que relation. Et si nous savons lui parler dans le silence, hors du monde, il répond. Il répond toujours, quel que soit. Et même si on est incroyant, et je dirais à plus forte raison si on est athée incroyant. Mais il faut lui faire confiance. Mais la différence, c'est qu'on voudrait que Dieu réponde à la minute, comme les gens qui veulent gagner au loto en faisant une prière.
Et dans le sens, on aimerait bien que Dieu réponde dans le sens où on le souhaite, c'est-à-dire en condamnant le voisin.
Exactement. Alors mais il choisit son moment.
Alors
voilà,
que c'est Dieu lui répond toujours comme un père, absolument, ou Marie comme une mère, pour qui tous les enfants sont chers.
Absolument, absolument. Et quand on pourra comprendre, ne serait-ce que cela, que Dieu est relation, qu'il n'est pas si lointain, qu'il n'est pas dans une sphère et qu'il laisse le monde voyant le mal, pas du tout. Il peut communiquer avec tout être humain, comme moi je suis venu communiquer avec vous, mais si vos auditeurs ne se branchent pas sur Radio Maria avec la longueur d'onde, ils ne risquent pas d'entendre votre voix ni la mienne. Et Dieu, c'est un peu ça. Je dirais dans cette façon moderne, si vous me permettez. Et je dirais même plus pour ceux qui savent un peu ce que c'est l'hologramme, ils pourront se rapprocher de cet espace tridimensionnel qui fait que si on oublie un peu son soi, parce que dans tout être, il y a une bivalence, il y a le cerveau droit, il y a le cerveau gauche, il y a le conscient, l'inconscient, mais il y a une troisième dimension. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer, sans avoir tous les mots, parce qu'on n'a pas un tableau pour prouver cela, la science rattrape à la vitesse lumière l'épreuve que Dieu existe. Mais chacun peut le trouver. Personne peut se convertir seul si Dieu ne veut le convertir lui-même. Et s'il y a des gens incroyants ou athées, ce n'est pas un problème pour Dieu. Et Jésus a parlé du Samaritain, il n'a pas parlé des bons disciples. Il a parlé de ce Samaritain qui est sur le bord de la route. Cela ne veut pas dire que chacun ne doit pas garder ses convictions et les vivre. Mais je crois que Dieu sera beaucoup plus, je ne dirais pas sévère, mais exigera plus de ceux qui ont eu la chance de croire que de ceux qui n'ont pas eu la chance de croire. Et je pense que nous avons tous, croyants, je pense, une responsabilité collective par rapport à nos frères incroyants. Sinon, à quoi sert de dire aimer les uns les autres ou aimer même l'ennemi? Je dirais la chose la plus difficile, c'est d'aimer l'ennemi. Et dans le premier message de Soufanié, je dirais ça pour terminer, aimez-vous les uns les autres, faites le bien à ceux qui font le mal. Combien aujourd'hui, on a tendance à faire le bien uniquement à ceux qui nous font du bien. Et je crois aussi, c'est une touche, c'est une preuve de l'irrationnel. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est vrai, c'est irrationnel. Faire le bien à ceux qui nous font du mal, quelque part c'est difficile. Et peut-être pour ça, nos frères juifs, il faudrait qu'ils comprennent, je dis bien nos frères juifs, c'est fini le temps d'œil pour œil, dent pour dent. Il faut pardonner. Et à partir du moment où il y aura le pardon, je suis sûr que tous les pays du Proche-Orient, ce seront eux les meilleurs protecteurs d'Israël et pas les États-Unis. Les États-Unis peuvent avoir les meilleures armes du monde parce qu'on se moque beaucoup de ces guerriers qui n'ont plus, malheureusement, je ne justifie pas du tout, mais c'est les armes des aveugles, c'est l'arme de celui qui n'a plus rien à perdre. Comment voulez-vous défendre la paix, la justice et l'amour s'il n'y a pas l'écoute de l'autre, de sa souffrance? Et à ce moment-là, peut-être, mais je pense que le miracle peut venir des enfants et des femmes. C'est mon sentiment. Et je dirais, bien sûr, des gens qui sont au niveau des masses médias, des gens du théâtre, des gens peut-être qui sortent du domaine politique ou scientifique, peut-être le secours est peut-être là.
Que l'on écoute aussi, et enfin, ce que ne cesse de dire depuis plus de 20 ans le pape Jean-Paul II. Parce qu'il a parlé sur le Liban, il a parlé sur la Terre Sainte, il a parlé sur Jérusalem. Le nombre de gestes qu'il a posés est extraordinaire. Et on ne l'écoute pas.
Mais tout à fait, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et moi-même, j'ai été sensible. Mais encore, vous aviez l'autre voix, celle du mal, qui disait, comme vous savez, le train qui cache un autre, l'affaire de Paris qui voulait étouffer l'affaire de Soufanié. Il y avait beaucoup de télévision, de journaux qui disaient que le pape n'avait rien dit, alors que le pape a condamné plus d'une fois certaines choses, effectivement. Mais comme il défend la vérité, il dérange. Alors on a étouffé, je pense, sa voix.
Merci en tout cas, monsieur Antakli.
Je vous en
parce
prie.
Parce que, vous voyez, on a retrouvé à partir du témoignage de Marie ce combat que vous avez mené pour la paix, toutes ces lettres que vous avez écrites, tous azimuts, souvent pure perte, mais avec toujours beaucoup de patience et de sérénité, vous avez écrit ces lettres, vous avez essayé de faire ce que vous pouviez faire. Et je crois que c'est là qu'on retrouve la définition du père d'Arrigo, l'itinéraire d'un honnête homme. Ça n'est pas à vous de vous le donner, ce titre, mais le père d'Arrigo vous l'a donné, je crois qu'il a bien fait.
Nous venons d'échanger avec Jean-Claude Antacli, qui nous a parlé de son livre paru aux éditions de Guibert, Itinéraire d'un chrétien d'Orient.
C'était le Palimpseste, une émission de Radio Maria proposée par Henri et Marie-Agnès sur l'actualité du livre chrétien.